Donc pour ceux qui viennent d'arriver, que j'ai pas eu le temps de saluer, je vous adresse à toutes mes salutations. Hop. En préparant ce message, j'ai dû relire un peu les notes de ce que j'avais noté pour la prédication de Ruben, vous savez, il y a 2 semaines, parce que la semaine dernière, c'était le pasteur de l'AECM, Michel Viguier, qui est venu apporter le message. Et du coup, ça n'avait rien à voir, c'est le fait de renoncer à soi-même, alors qu'il y a 2 semaines, c'était sur Galates. Et moi, comme je devais enchaîner, je me suis dit, mince, faut vraiment que je revoie ce qu'on a eu. Et je remercie le Seigneur parce qu'avec mon frère Eric, on se disait, mais c'est tellement important Eric Chancel, c'est vraiment important de prendre des notes, en fait. Parce que si je me base sur ce que j'avais entendu au moment de la prédication, j'aurais peut-être retenu une ou deux choses. Mais le fait que j'ai pris des notes non-stop pendant toute la prédication, ça m'a permis en fait de mieux cerner et de mieux comprendre ce qu'il avait dit en fait. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que je vous invite pour pas d'une part ne pas vous endormir parce que vous venez de manger, et d'autre part pour ne pas être comme le serviteur oublieux de Jacques, qui quand il s'observe dans un miroir, il voit tout ce qui est mauvais en lui et après il repart comme si de rien n'était. Donc prenez vos smartphones. Prenez de quoi noter, et je vous invite vraiment, que ce soit moi ou n'importe quel orateur, et ça va vous permettre d'être plus attentif et de mieux suivre la prédication. Voilà, moi pour vous aider, j'ai préparé un petit PowerPoint, donc il y aura notamment des notes et des choses qui pourront vous aider à nous suivre. Donc avant de continuer, je vous invite à prier. C'est entre Dieu, je te remercie encore de ce que tu me donnes le privilège d'apporter ce message à ton église, Seigneur. Merci pour cette petite église de Saint-Maur que nous sommes et merci pour chaque frère et sœur ici présent qui est précieux à tes yeux. Et je te prie, Seigneur, que ta parole nous parle, qu'elle soit un guide afin que nous puissions encore plus marcher dans ce chemin que tu as préparé d'avance pour nous, Seigneur. Garde-nous dans tes sentiers et je te prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc avant de commencer vraiment le message, il y a un mot que j'aimerais vraiment rappeler, c'est le mot judaïsant. Je vais utiliser beaucoup ce terme. Donc les judaïsants, ce sont des juifs qui se seraient convertis au christianisme via les ministères des apôtres, mais ces juifs qui se disent chrétiens incitent les autres chrétiens qui ne sont pas juifs à respecter la loi de Moïse et notamment la circoncision. Donc Paul les appelle des faux frères, hein. Donc ce sont probablement pas des personnes qui sont converties, et c'est à cause de ces judaïsants que Paul écrit la lettre de Galates. Voilà. Donc mémorisez bien ce terme, judaïsant, c'est vraiment important. En gros, vous pouvez noter judaïsant égale juif se disant chrétien mais non converti. Voilà, si vous voulez. Donc je rappelle le contexte. Nous sommes en Galatie du Sud, c'est cette partie grisée, donc là où il y a les villes de Icône, Nistre et Derbe, où Paul était pour son premier voyage missionnaire. Et vous savez que la base missionnaire de Paul, c'était Antioche de Syrie, et c'est de là qu'il partait pour faire les voyages. Ok. Et aussi par rapport à Galates, on arrive vraiment vers la fin de Galates. D'ici la fin du mois de février, nous aurons fini le livre des Galates. Et pour vous resituer un peu où nous en sommes, dans la première partie de Galates, donc chapitre 1 et chapitre 2, on voit que Paul défend son autorité d'apôtre parce qu'il a été remis en question par des judaïsants. Dans la deuxième partie de Galates, donc chapitre 3 et chapitre 4, Paul y montre que l'homme ne peut être sauvé et déclaré juste qu'au travers de la foi, c'est ce qu'on appelle la justification par la foi. Et dans le chapitre 5 et 6, qui commence donc aujourd'hui avec verset 1 au verset 12, Paul aborde la sanctification, c'est-à-dire tout ce qui sont les conséquences de la justification, ce qu'on peut appeler aussi les privilèges de la justification. Voilà. Nous sommes donc dans cette partie pratique. Donc précédemment, vous savez comme dans les épisodes quand on regarde des séries précédemment, nous avons vu il y a 2 semaines avec Ruben, et Ruben nous avait rappelé l'identité du chrétien. Donc les chrétiens de Galates, ils étaient esclaves, il expliquait, mais à travers la conversion, ils sont devenus des hommes libres. Ils faisaient partie de la descendance de Hagar, donc la Jérusalem actuelle au moment où Paul écrit ce message, et ils sont passés à la Jérusalem céleste en étant descendants de Sarah, la femme d'Abraham qui a donné naissance à Isaac. Et ils sont passés de la réalité de la loi à la réalité en Christ. Ils sont donc passés d'une ancienne alliance où il y avait la loi de Moïse à respecter, plus de 600 commandements, à une nouvelle alliance qui était en Christ. Et ça, c'est ce que nous avait rappelé notre frère Ruben dans son message. Et à la fin de ce message, Paul appelle à chasser l'esclave et son fils, et c'est-à-dire à chasser tout ce qui le liait à cette ancienne alliance, et pour faire partie de cette nouvelle alliance. En d'autres termes, Paul appelle les enfants de la promesse à se séparer de ceux qui veulent les priver de leur héritage et les rendre à nouveau esclaves de la foi. Pour vous simplifier ça, j'ai fait un autre schéma. Allez. On voit que l'influence des judaïsants les encourage à retourner à l'ancienne alliance, à la loi de Moïse. Et Paul leur dit, attention, ces gens-là ne sont pas chrétiens et ils vous détournent de la foi qui sauve, de la nouvelle alliance. Il faut donc se séparer d'eux. C'était la fin de notre message d'il y a 2 semaines. Voilà. Par rapport à aujourd'hui, donc je vais diviser en deux mon message. Premièrement, on va voir le chrétien qui est libéré de la religion. Et ensuite, verset 7 au verset 12, nous verrons le chrétien qui est libéré du légalisme. Donc, il va falloir qu'on suive. Alors, j'ai pas noté à chaque fois les passages bibliques, mais à chaque fois, j'aurai des notes qui vous aideront. Mais à chaque fois, il va falloir qu'on suive linéairement les versets de Galates 5. Donc, je relis verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. En fait, le verset 1, il vient comme une conclusion de ce qui a été dit dans la prédication de Ruben. Les chrétiens ont été affranchis. Ils sont libérés grâce à l'œuvre de Christ. Et cela fait écho aux paroles de Jésus dans Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Ensuite, il continue en disant aux chrétiens de Galates deux injonctions. La première, c'est de demeurer ferme. Et on voit ça dans deux autres passages dans le Nouveau Testament, Éphésiens 6, verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Et aussi dans 2 Thessaloniciens 2, verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Il encourage donc à demeurer ferme. Il encourage aussi les Galates à ne pas se laisser de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Et donc, on peut voir deux différents types de joug, le joug de la loi, le joug qui était l'ancienne alliance. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu et mettez-vous sur le cou des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas été capables de porter, dans acte 15, verset 10, et on compare avec le joug de Christ, vous savez que le Seigneur qui nous disait « Venez à moi », ce passage bien connu, « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous recevrez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Matthieu 11, verset 28 au verset 30. Donc voilà, après avoir exposé son ministère d'apôtre et les principes de la justification dans le chapitre précédent, Paul ensuite leur parle des implications et des privilèges de cette liberté. Et nous continuons ensuite du verset 2 au verset 4. Paul montre qu'avec la circoncision du chrétien, il y a plusieurs choses à retenir. Premièrement, pour le chrétien, si le chrétien qui n'est pas juif se fait circoncire, Christ ne lui sert à rien, verset 2. Le sacrifice de Jésus ne peut s'appliquer à une personne qui croit être sauvée par les œuvres de la loi, car nous sommes uniquement sauvés par les œuvres, par la foi. Ensuite, deuxièmement, la circoncision du chrétien oblige cette personne à pratiquer la loi toute entière, comme le dit Paul. Et la loi mosaïque, vous savez, il y avait trois types de lois. Il y avait la loi morale, tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Il y avait les lois cérémonielles qui étaient liées au sacrifice des agneaux, notamment dans Lévitique. Et enfin, les lois sociétales, lorsque une personne est déclarée impure parce qu'il s'est passé telle ou telle chose par rapport à la lèpre. Voilà. Donc, au total, plus de 600 lois. C'est-à-dire que si les chrétiens se faisaient circoncire, ils étaient tenus de respecter plus de 600 lois qui étaient dans la loi mosaïque. Et comment comprendre ça aujourd'hui? En fait, j'ai pris une anecdote qui est inspirée d'un autre prédicateur. C'est comme si vous imaginez qu'un dimanche après-midi, je me trouve sur le chemin, je conduis, je suis un peu en retard, et je roule, je passe pas par l'autoroute parce que c'est bouché, donc je passe par les petites routes, et je vois un stop. Mais bon, je connais très bien ce stop parce que à gauche, il y a personne, à droite, il y a personne. Puis voilà, une première roulante, comme on dit quand on conduit. Et hop, ni vu ni connu, c'est pas grave. Et tout à coup, il y a un policier qui m'arrête et qui me demande « Mais vous avez pas vu le stop ?» Et je vais dire « Bah, si, je l'ai vu. » Et bah, il va ajouter « Savez-vous ce que ce panneau veut dire ?» Et il commence à me sermonner, etc., en me disant que « Attention, vous n'avez pas respecté ce stop. Vous avez ralenti, mais vous n'êtes pas complètement arrêté. » Et depuis ce jour, je le dis, on considère que ça m'arrive à moi, je m'arrête toujours au stop, ou presque, vous pouvez demander à Tatiana. Mais voyez-vous, le presque est insuffisant au regard de la loi. Mais c'est peut-être un peu disproportionné en se disant, bah attendez, mais un petit stop, c'est rien. Mais par rapport à Dieu qui est saint, le presque, c'est enfreindre toute la loi en fait. C'est le légalisme radical de la loi. En gros, l'étalon de mesure, si je devais prendre une éprouvette, vous savez, on mesure, c'est la justice parfaite. Et quand on viole un seul élément de la loi, ça revient à échouer complètement. Ensuite, la troisième chose, c'est que la personne est séparée de Christ, les conséquences de la circoncision, c'est-à-dire qu'elle est déchue, elle est sortie de la grâce, elle n'est plus sauvée, elle est en danger de mort spirituelle. Elle essaye de se sauver elle-même. Et les chrétiens qui souhaitent retourner à la justification par la loi sont en train de revenir dans leur statut d'esclave. Ils sont en train de sauter du bateau qui les amenait à la destination qui était la vie éternelle avec Dieu. Pour aller dans un autre chemin qui va dans un autre bateau, pardon, qui va se perdre dans l'enfer. Adopter le légalisme, c'est renier Christ. Et on ne peut pas essayer de se sauver soi-même et en même temps mettre toute sa confiance en Christ. Soit on met toute sa confiance en Christ et on est sauvé, soit on essaie de se sauver soi-même. On ne peut pas faire les deux. Et par rapport à la circoncision, je rappelle, c'était un signe qui était un signe de la soumission à l'alliance de la loi. C'était un signe de l'ancienne alliance qui annonçait la nouvelle alliance par Jésus. Mais une fois que Jésus est mort et ressuscité, il a instauré cette nouvelle alliance, cette circoncision n'a plus de lieu d'être. Continuons avec le verset 5. Par rapport au verset 5, donc je vais relire, « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. » Paul fait une distinction en prenant ses auditeurs en disant « nous », donc il parle de lui-même, et des Galates qui, eux, n'ont pas abandonné la foi. Et il oppose cette justification par la loi qui vient d'énoncer dans le verset 2 au verset 4 à cette justification par la foi dont bénéficient les chrétiens. Le chrétien a le Saint-Esprit en lui qui l'aide à attendre avec foi l'espérance et la justice de Dieu. Non pas dans ce monde présent, mais dans le monde céleste. Et des versets, donc j'ai noté Romains 5, versets 1 à 2, qui nous montrent que nous sommes justifiés par la foi. Donc étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Demeurons fermes, comme au verset 1, vous vous rappelez. Deuxième chose, on parle d'une espérance future des chrétiens d'être déclarés justes devant Dieu. Nous sommes justifiés aujourd'hui, mais nous verrons officiellement, comme nous serons au jugement dernier, nous serons déclarés par Dieu juste devant tout le monde. Et on peut voir ça dans deux passages, dans 1 Pierre 1, verset 4 et verset 13, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Donc les chrétiens possèdent déjà la justice de Christ qui leur a été imputée au moment où Christ est mort et ressuscité pour nous. Mais ils attendent encore cette justice qui sera parfaite et complète, ce nouveau ciel et cette nouvelle terre qui seront après le jugement, qui leur sera accordée au moment de leur glorification. Mais pour quelle raison le chrétien est-il déclaré juste? On continue en regardant le verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Seule la foi en Jésus-Christ et qui agit avec amour a de la valeur. C'est une foi dont on voit les fruits. Et cette foi donne accès à cet amour de la part de Dieu, qui produit en nous un amour non seulement pour Dieu, mais aussi qui nous donne un amour pour les autres. C'est-à-dire obéir aux deux commandements de Matthieu 22, versets 37 à 40. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. Donc pour simplifier un peu cette vision du salut, j'ai fait un schéma pour essayer de simplifier les choses. On part du principe que Dieu nous donne quelque chose. Éphésiens 2, verset 8, Dieu nous donne quelque chose par grâce, et ce quelque chose, c'est la foi. Ensuite, cette foi, plusieurs choses. Elle nous aide à atteindre l'espérance de la justice, comme on vient de le voir dans Galates 5, verset 6. Hébreux 11, 1 nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Donc c'est vraiment lié, hein. Galates 5, verset 6 et Hébreux 11, verset 1. Troisièmement, on voit aussi que cette foi nous permet d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Et enfin, on voit que cette foi, elle est agissante par l'amour. La foi produit en nous l'amour, parce que Dieu nous donne cette foi, et cette foi nous aide à avoir l'amour qui nous vient de Dieu, qui nous aide à aimer Dieu en retour, et nous aide à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et du coup, ce que je vous ai dit tout à l'heure, amour de Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et amour du prochain comme soi-même. J'espère que c'est un peu plus clair par rapport au lien entre la foi et l'amour. Mais alors, attends un peu. Francis, par exemple, pourrait me dire, attends un peu, dans la loi, il y a des choses à obéir qui sont bonnes, par exemple, les 10 commandements, c'est des choses qui sont justes, mais qu'en est-il de nous, si nous sommes justifiés par la foi, est-ce qu'on doit encore obéir à ces choses? Donc, merci Francis d'avoir posé la question. La conduite du chrétien, elle doit être dictée par un ardent amour de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu. Et le chrétien, parce qu'il est sauvé, désire faire des bonnes œuvres, et non le contraire, comme le judaïsant. Parce que je suis sauvé, parce que Dieu me donne son amour, mais c'est tellement logique. Enfin, je veux dire, j'étais sauvé de la mort, mais c'est normal que j'ai envie de lui obéir. C'est normal que j'ai envie d'aider mon prochain. C'est normal que j'ai envie de l'aimer en retour. Et un verset qui illustre cela, c'est Éphésiens 2, verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous venons de voir dans cette première partie que seule la foi en Jésus-Christ nous justifie et que le fait d'ajouter la loi, les rites religieux, ça rendait cette foi complètement caduque, complètement obsolète, inutile. Continuons avec la deuxième partie, où nous verrons que le chrétien est libéré du légalisme. Donc je lis au verset 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous couriez bien. Cette expression, le fait de courir, elle est utilisée par Paul dans beaucoup de ses lettres. Et j'ai recensé quelques passages. Bon, il y en a un qui, on ne sait pas si c'est Paul parce que c'est hébreu, mais toutes les autres sont de Paul. « Donc, par exemple, on va dans Galates 2, il suffit d'après une révélation que j'ai montée, je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. 1 Corinthiens 9, verset 24, ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant un seul remporte le prix, courez comme lui, de manière à gagner. Philippiens 3, verset 13-14, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ, en Jésus-Christ. 2 Timothée 4, 7, une des dernières lettres de Paul, qui écrit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et enfin, l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Grâce à leur affranchissement, à leur libération de leur statut d'esclave, vous vous rappelez dans les premières diapositives que je vous ai montrées, ils étaient libérés et grâce à cela, ils pouvaient courir. Ils avaient cette course, la course qui est la vie chrétienne, qui n'est pas un sprint où voilà, on court 10 secondes et ça y est, c'est fini. Non. La vie chrétienne, c'est un marathon. La vie chrétienne, c'est une course d'endurance. Et celui qui gagne, ce n'est pas celui qui franchit le plus vite la ligne d'arrivée, mais c'est tous ceux qui parviennent à la ligne d'arrivée. Et c'est ça le plus important. Et Paul leur dit que, ok, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Donc ces chrétiens qui galates, ils ont été arrêtés dans leur élan et ils n'obéissaient plus à la vérité. Mais quelle est cette vérité? Cette vérité, c'est celle de Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Or, on sait bien, un homme ne peut pas emprunter deux chemins en même temps. Je me rappelle à mon enterrement de vie de garçon quand Yaki et Mike et Joël m'ont emmené à faire des choses dans la forêt. Du sport. Je crois que c'était Joël qui me faisait courir derrière lui et Yaki. Et à chaque fois, il me disait, bon, suis-moi. Et du coup, moi, je le suivais, mais si je pouvais pas choisir d'aller à gauche ou à droite, j'étais obligé de le suivre. Je pouvais pas aller dans deux chemins en même temps. Donc là, c'est pareil. Un homme ne peut pas emprunter deux chemins en même temps. Et les Galates avaient quitté le chemin dans lequel ils couraient, mais pour suivre un autre chemin qui était le chemin de perdition. Et au verset 8, Paul dit que cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Donc celui qui a appelé les Galates à la foi, c'est Dieu. Et cette influence mauvaise, donc en grec, il y a plusieurs termes pour traduire ce mot grec. Il y a soit influence, soit l'obéissance imposée, ou soit la persuasion, donc selon les traductions. Donc les judaïsants ont persuadé, influencé ces chrétiens galates et pour qu'ils quittent le bon chemin et qu'ils arrêtent de courir dans le bon chemin. Et donc cela ne vient pas de Dieu. On pourrait même aller jusqu'à penser que cette influence, elle vient du père du mensonge, qui est le diable, qui est Satan. Paul poursuit au verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Est-ce que ça vous rappelle des choses? Le levain. Jésus en parlait, Paul lui-même en parlait. On va voir ça. Donc c'était utilisé par Jésus dans Matthieu 16, versets 11 à 12. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Et Paul, dans 1 Corinthiens 5, verset 6, dit « C'est bien à tort que vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Donc le premier sens qu'on pourrait donner à la phrase « un peu de levain fait lever toute la pâte », c'est que il y aurait une influence, une persuasion qui a été faite par un ou deux judaïsants qui ont mené toute l'église galate à sa perte, et donc un seul judaïsant a pu contaminer tous les autres, a pu propager cette fausse doctrine. Le deuxième sens qu'on pourrait donner, c'est qu'une seule erreur concernant le salut, la doctrine du salut, par grâce, par la justification, par la foi, peut entraîner une erreur totale concernant le salut. Alors, pour illustrer ça, j'ai pris un exemple qui est l'exemple du verre d'eau. Le verre d'eau, donc de l'eau, c'est bon pour la santé, c'est boire de l'eau nous maintient en vie, sans eau nous mourrons. Ok, sans nourriture, mais avec de l'eau, il est possible de survivre, pas très longtemps certes, mais nous pouvons survivre. Maintenant, si j'ajoute dans cette eau, attention, c'est là que vous allez voir tous mes talents de dessinateur, du poison ou du cyanure par exemple, si j'ajoute une goutte, remarquez la goutte, que c'est grâce à PowerPoint. Si j'ajoute une seule goutte de cyanure dans ce verre d'eau, l'ensemble de l'eau qui est située dans ce verre est empoisonnée. Et la personne qui boira de cette eau qui est contaminée mourra. Donc un peu d'erreur de doctrine du salut, ça aboutit à une erreur totale concernant le salut. Je continue avec le verset 10. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Donc au verset 10, Paul est assez optimiste et il cherche à faire adhérer les Galates à sa cause en évoquant le fait qu'il a confiance en eux, en les ralliant à sa cause. Vous ne penserez pas autrement. Il a aussi confiance en Dieu qui est souverain, qui est assez fidèle pour préserver son peuple de sombrer dans une si grossière erreur de doctrine. Il change de ton lorsqu'il parle ensuite de « celui qui vous trouble en portera la peine ». Donc là, il est en train de pointer ces judaïsants sans les nommer, et il rappelle qu'ils récolteront les fruits de ce qu'ils ont semé et qu'ils seront jugés. Et ça, on voit par exemple dans Galates 6, verset 7, donc je spoil entre guillemets par rapport aux prochaines prédications. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et si on considère à nouveau la super image du verre d'eau avec le cyanure, en fait, c'est comme si les judaïsants, c'était ces personnes qui ont versé ce cyanure dans ce verre d'eau. Et Paul dénonce ces criminels spirituels. Ils seront sévèrement condamnés par Dieu. Et on peut voir un autre exemple dans les Écritures qui montre que tout enseignant qui développe des fausses doctrines encourt une condamnation stricte et éternelle. Dans 2 Pierre 2, versets 1 à 3, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qu'ils ont racheté, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Donc ces personnes-là seront jugées et seront condamnées. Au verset 11, on approche de la fin. « Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté ?» En fait, il y a des personnes parmi les judaïsants qui disaient que « Ok, Paul, tu prêches la justification par la foi, mais en fait, tu prêches aussi le fait qu'il faut se faire circoncire. » En gros, il l'accuse d'être en contradiction avec lui-même. Mais lui, il raisonne avec leur logique, il dit « Attendez, si je prêche en faveur de la circoncision, pourquoi est-ce que je suis persécuté? Si je prêche en faveur de la justification par la loi, finalement Christ seul ne me suffit pas. Finalement la justification par la croix, c'est plus un scandale en fait. Et comme il le dit, le scandale de la croix serait aboli. Le terme grec pour scandale, ça peut aussi signifier piège, obstacle, pierre d'achoppement. Ça on peut le voir aussi dans Romains 9, verset 33. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. La croix ne serait plus un scandale et ne changerait rien aux coutumes de la loi de Moïse. Et pour Paul, mieux vaut être persécuté par ces faux docteurs que de requérir leur approbation en les imitant, en faisant circoncire les gens, au lieu de rester sur sa ligne de conduite qui est de prêcher la croix qui sauve. Enfin, au verset 12, Paul termine son élocution par une malédiction. Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? Avec un point d'exclamation. Paul est très virulent dans ces passages. À la fin du verset 11, le scandale à la croix est donc aboli. Point d'exclamation. Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous, point d'exclamation. Le mot retranché, ça peut être aussi le mot, en fait c'est un jeu de mots grec pour dire qu'il puisse aussi se faire mutiler en rapport avec la circoncision en fait. Donc ça c'est le premier sens qu'on pourrait donner. Et moi j'avais une autre idée aussi, c'était que j'avais aussi exploré, c'est que ceux qui prêchent un autre évangile que celui de Christ, soit ils seront expulsés, mis de côté, mais soit ils peuvent aussi être maudits, détruits, retranchés par Dieu lui-même. Et par exemple, en Galates 1, verset 8 à 9, « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Voilà, c'est le passage. Donc on vient de voir dans cette deuxième partie, verset 7 au verset 12, que seule la foi en Jésus-Christ nous rend libres et nous permet de jouir d'une relation exclusive avec Dieu. Et que ce légalisme, le fait de faire des choses pour être sauvé, ça nous amène à nouveau à cet esclavage qui est la loi du péché. Et maintenant, ce qu'il faut retenir par rapport à ce message, c'est que nous avons vu que le chrétien, après sa conversion, est libéré. Pardon. Le chrétien est libéré de la religion, de l'obéissance à des rites. Et que seule la foi en Jésus-Christ justifie le chrétien. Le fait d'ajouter la loi ou les rites, ça rend cette foi complètement inutile. Et on a vu aussi dans un deuxième temps que le chrétien est libéré du légalisme, de l'esclavage, de la loi du péché, du système agir plus pour gagner plus. Seule la foi en Jésus-Christ rend le chrétien libre et lui permet de jouir une relation exclusive avec Dieu. Donc après avoir pu un peu explorer cette exégèse de ce passage, je propose quatre applications pour nous aujourd'hui. Ça va être plus concret pour nous tous. Premièrement, méfions-nous de tous les enseignements que nous avons et éprouvons tout ce qui est dit à la lumière de la parole de Dieu. Dans 1 Jean 4, verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Acte 17, verset 11, on parle des chrétiens de Bérée. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Application pour nous aujourd'hui, Joel Osteen, Joyce Meyer, mais aussi John Piper, Paul Washer. Il nous faut éprouver tout ce qui est dit au regard de la Bible. Mais attendez, pour éprouver ce qui est dit au regard de la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Et pour connaître la parole de Dieu, il faut la lire, il faut la méditer. Et pour la lire et pour la méditer, il faut prendre du temps. Et la question que je me pose, c'est à quoi consacrons-nous le plus clair de notre temps? Les non-chrétiens passent leur temps libre dans des divertissements. Ils jouent à Candy Crush, à Clash of Clans, ils vont sur Facebook. Et en quoi sommes-nous différents finalement des non-chrétiens? Ce que j'ai appris dans ma vie, dans ma courte vie pour l'instant, c'est que plus on passe de temps dans quelque chose, plus ça montre l'importance que cette chose a pour nous. Et toi? Est-ce que tu lis un passage biblique quand tu as du temps? Est-ce que tu mémorises un verset? Est-ce que tu relis tes notes de prédication de dimanche dernier? Est-ce que tu es en train de lire un livre chrétien? Ou est-ce que en quoi te différencies-tu des non-chrétiens qui jouent à Candy Crush, Clash of Clans, qui sont sur Facebook? Je ne dis pas que ces choses-là sont mauvaises, mais je dis juste que si on passe plus de temps dans cela que dans les choses qui sont en rapport avec la parole de Dieu, ça montre qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Et moi le premier, sur Facebook. Deuxième application. Est-ce que nous avons des amis de la famille qui nous rejettent, qui nous persécutent? Alors, physiquement, je pense pas, j'espère pour nous, mais peut-être aussi surtout moralement en France, en raison de notre attachement à Christ. Est-ce que, en gros, des gens se moquent de vous parce que vous êtes chrétien? La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il ne faut pas nous étonner de cela. Jésus lui-même nous a prévenu que cela pourrait arriver, dans Jean 15, versets 18 à 19. Est-ce que vous pouvez le lire, s'il vous plaît?
Si le monde voulait, que Jésus va aller à vous. Si vous étiez du monde, vous n'aurez plus.
Comment réponds-tu dans ce cas à tes détracteurs? Est-ce que tu défends ta foi? Est-ce que tu essayes de les convaincre? Comme 2 Timothée 3, versets 16 à 17, toute écriture est utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Corriger, convaincre. Certains membres de notre famille ou certains amis nous considèrent peut-être comme des illuminés, car pour eux, nous croyons, sans rien remettre en question, nous sommes crédules, entre guillemets. Cependant, en tant que disciples, nous devons de leur montrer que notre foi est cohérente, de montrer qu'elle est raisonnable, et qu'au contraire, c'est plutôt déraisonnable de s'appuyer sur sa propre vérité, plutôt que sur celle d'un Dieu qui a tout créé, qui est tout puissant, qui est saint, qui est éternel, qui est souverain, qui sait tout, qui est omniscient, et qui est juste et qui est bon. Répondons-leur avec notre comportement empreint de l'amour de Christ. Notre foi doit produire en nous l'amour, comme on l'a vu tout à l'heure, et pour, non seulement pour Dieu, mais aussi pour les autres. Appliquons donc les conseils de Pierre dans 1 Pierre 3, versets 15 à 17, que je vous invite à lire. Merci. Troisième application. Est-ce que nous faisons preuve de légalisme? Est-ce que nous essayons d'ajouter une ou deux choses à la justification par la foi seule? Peut-être le salut grâce au baptême, l'accomplissement de rites ou grâce aux bonnes actions. Donc si c'est ton cas, je t'invite à confronter ces pratiques à la parole de Dieu et on peut discuter ensemble. Si ce n'est pas ton cas, parce que tu fais partie de l'église chrétienne missionnaire de Saint-Maur, parce que tu es protestant, évangélique, chrétien, missionnaire, bah dans ce cas-là, je t'invite à premièrement, professer à ton entourage qui est lui-même légaliste. Donc peut-être si vous avez des amis qui sont catholiques ou témoins de Jéhovah, qui ont des doctrines qui s'appuient vraiment sur le légalisme, je t'invite à leur professer avec amour la sainte vérité, avec amour bien sûr. Et peut-être c'est une autre forme de légalisme, mais c'est toutes les fois aussi où nous sommes orgueilleux, et moi le premier, je pense que c'est un de mes péchés subtils les plus importants. Toutes les fois où nous comptons sur nous-mêmes, sur nos propres dons, au lieu de compter sur la grâce de Dieu qui nous a équipés de ces dons. Les fois où je me dis, en fait j'ai prêché mais je suis super fort, je n'ai pas besoin de prier, enfin voilà, c'est grâce à mon don, parce que voilà, je suis sociable, parce que, non. C'est parce que Dieu a mis ce don en moi et que j'ai envie de partager pour l'église mon don, n'est pas pour moi-même, n'est pas fait pour mon édification personnelle. Mais chacun de vos dons, que ce soit la louange, que ce soit le fait de faire passer les PowerPoints, que ce soit le ménage, tous ces dons sont utiles pour servir. Et c'est le plus important, c'est le fait de servir. Quatrième et dernière application. Est-ce que peut-être nous tombons dans l'opposé du légalisme, ce qu'on appelle le libéralisme ou le laxisme? Nous ne devons jamais faire de notre liberté chrétienne un prétexte pour laisser agir notre chair, notre vieil homme. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette citation de notre pasteur Michel Viguier de l'ASM qui était venu dimanche dernier. Il a dit « À ma conversion, j'ai crucifié le vieil homme, mais le coquin, il s'est nagé. » C'est vraiment pour dire « Bah voilà, j'ai crucifié le vieil homme, cette vieille nature, cette chair, je l'ai crucifié à la croix. » Mais le problème, c'est que ce vieil homme ressurgit et je dois me battre avec lui. Et il y a cette image comme si c'était une armée qui est envahissante et qui cherche à établir une tête de pont qui servira de base d'opération pour de nouvelles conquêtes. Quand il y a une armée, souvent on fait une tête de pont qui nous permet ensuite d'aller vers d'autres endroits pour envahir. Et de la même façon, la chair va utiliser notre libéralisme pour élargir son territoire. Et le pasteur Pearson du 19e siècle disait que la véritable liberté ne se trouve qu'en exerçant une certaine retenue. Une rivière coule librement seulement entre ses deux bords. Sans eux, elle se répandrait en une mare vaseuse stagnante. Et si les planètes n'étaient pas soumises à une loi, elles se détruiraient et l'univers avec elles. Et donc pour prévenir cette attitude de libéralisme, nous pouvons nous rappeler que Jésus nous a sauvés et que ça lui a coûté sa vie. Souvenons-nous aussi que Jésus nous a sauvés en devenant Seigneur de notre vie, non pas pour que nous ayons notre ticket pour le paradis et pour vivre tranquillement notre vie, mais pour être serviteurs les uns des autres. Jean 13, versets 14 à 15, où on voit Jésus qui lave les pieds de ses disciples, nous a sauvés pour faire des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, Ephésiens 2, verset 10, et enfin pour faire de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire notre prochain, notre collègue, notre voisin, notre camarade de promo, etc., notre ami d'enfance. Et je vous laisse avec cette dernière question. Et toi, où en es-tu par rapport aux bonnes œuvres et par rapport à la mission que Jésus t'a donnée? Où en es-tu par rapport aux bonnes œuvres et par rapport à la mission que Jésus t'a donnée? Et là, je vous invite à vous mettre par groupe de deux pendant 5 minutes pour partager où ce que vous en êtes. Et je reviendrai pour prier après. Donc je répète pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'ont pas entendu, où est-ce que tu en es par rapport aux bonnes œuvres et par rapport à la mission que Jésus t'a donnée? En fait, où est-ce que tu en es par rapport à tous ces points-là? Donc en 5 minutes, donc il va falloir être court et concis. Je vous invite à prier. Merci Seigneur, car tu nous as déclarés justes grâce à notre foi en Jésus-Christ. Et merci parce que tout le mérite te revient. Notre foi vient de toi, comme le dit Ephésiens 2, verset 8. Et l'objet de notre foi, c'est-à-dire le sacrifice et la résurrection de Jésus, viennent également de toi. Et merci parce que nous te devons tout. Apprends-nous à compter davantage sur toi chaque jour. Donne-nous un désir ardent pour prendre du temps avec toi, pour te parler dans nos prières, pour t'écouter, pour méditer sur ta parole. Apprends-nous également à faire preuve de discernement quant aux multiples messages que nous entendons sur Internet, mais aussi les dimanches. Qu'en ce moment même, Seigneur, tu aides mes auditeurs à discerner si je dis quelque chose qui s'oppose à ta sainte doctrine du salut. Encore un dernier merci, Jésus, car c'est grâce à ton œuvre à la croix et à ton intercession aujourd'hui même auprès du Père que nous pouvons te prier librement. Je te prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen.